CFM Cahors, le mag.
Bienvenue sur CFM, c'est l'heure de votre mag. Un voyage en solo, c'est ce que nous propose Jean Meyer ce samedi à l'école, à l'auditorium de l'école de musique de Cajar. On en parle dans la deuxième partie de cette émission. Mais d'abord, place à l'actualité cadurcienne avec ce nouveau dispositif qui est mis en place depuis hier, le fameux 30 km/h en plein centre-ville. Eh bien, nous allons en discuter avec l'élu de la commune, qui veut nous rendre visite ici dans ce mag. Soyez les bienvenus, vous êtes sur CFM Cahors. Ça y est, c'est fait maintenant dans le centre-ville de Cahors. Eh bien, la vitesse est limitée à 30 km/h. Alors, bien sûr, ça ne fait pas toujours plaisir. Mais pourquoi limiter une vitesse à 30 km/h ? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de comprendre avec Abel Rachi, qui est délégué aux mobilités douces à la ville de Cahors. Bonjour, Abel.
Bonjour.
Alors, Abel, autant vous dire qu'il va falloir un petit peu éteindre le feu. C'est vrai que ça parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Les gens ne comprennent pas pourquoi 30 km/h. Alors, du coup, pourquoi justement 30 km/h ? Dans une certaine boucle, hein, ce n'est pas dans la ville en entier. On va en parler tout à l'heure.
On va le détailler ensemble. J'ai plusieurs réponses à vous fournir, mais il y en a une qui est évidente, c'est la sécurité.
Ouais.
C'est notre objectif principal. L'objectif est de protéger les plus vulnérables dans la ville, quel que soit leur mode de transport, que ce soit un automobiliste, un piéton ou un vélo. En baissant la vitesse, la sécurité s'accroît.
Alors, d'accord, peut-être, mais beaucoup, si on regarde sur les réseaux sociaux, on peut parler par exemple d'incohérence avec les vélos qui eux-mêmes ne font pas ce qu'il faut, qui ne signalent pas ou autre. Est-ce que ce n'est pas un effort supplémentaire que l'on demande aux automobilistes et puis finalement on laisse couler les cyclistes ?
J'en profite pour dire que la limitation à 30 km/h n'est pas une mesure isolée. C'est une des dizaines de mesures que nous avons adoptées en conseil municipal et en conseil communautaire pour le Grand Cahors pour le plan vélo et circulation apaisée. Et donc la baisse de la vitesse permet l'apaisement de cette circulation, mais évidemment il y a des actions en direction des cyclistes, des automobilistes et même des piétons pour que la cohabitation se passe de mieux en mieux.
Mais alors comment la mettre en place cette application ? Parce que c'est pas évident. Par exemple, allez, je prends une phrase, c'est ce que je vais vous sortir régulièrement, Abel. Des phrases que j'ai vues dans les réseaux sociaux, vous allez pouvoir leur répondre. Qui va tenir les 30 km/h ?
Alors, honnêtement, tout le monde, Rue Wilson, Rue Anatole France, sans jamais se poser la moindre question, à mon sens. J'entends parfaitement que sur les quais, cela puisse être un petit peu plus compliqué, mais on revient à l'implantation que nous avons prévue. Nous avons choisi de nous consacrer à l'hyper-centre-ville, c'est-à-dire depuis le pont de Cabessus jusqu'au pont Louis-Philippe. On revient jusqu'au-delà du pont Valentré. Il y avait déjà des zones 30, c'est-à-dire que sur l'emplacement au niveau du pont Valentré, on reste sur ce qui est existant et au-delà de la zone commercial, quand on va sur l'avenue qui roule un peu plus, on repasse à 30 km/h. Quand on est sur les quais face à l'Aviron, on est aussi à 50 km/h. La limitation commence pour le nord de la ville au rond-point de l'auditorium. Donc on considère que c'est raisonnable, justement, et qu'à cet endroit-là, la sécurité méritait d'être améliorée. Je rappelle que cette limitation permet à la fois une diminution de la distance de freinage conséquente, plus de 50%, et une amélioration de la visibilité des piétons, des cyclistes, de tous les gens qui peuvent surgir éventuellement face à l'automobiliste.
Alors justement, parmi ce que l'on a vu dans les réseaux sociaux, et puis c'est vrai qu'on a un nombre incalculable d'accidents en centre-ville, 3 points d'exclamation.
Justement, on est là pour essayer de...
C'était ironique, je pense. Ouais. Est-ce que vraiment on a autant d'accidents que ça dans le centre-ville ?
Dimanche matin, sur les quais, il y a eu un accident assez important. Et oui, il y a des accidents. Il y a des accidents très graves. Et ça participera à la diminution. Encore un chiffre, un véhicule qui percute un piéton à 50 km/h a 9 fois plus de chances de causer un décès qu'à 30 km/h.
On perd combien de temps d'ailleurs si on passe de vitesse de 50 km/h à 30 finalement ?
Les statistiques nationales disent qu'on ne perd que 10% du temps de trajet. Moi, en pratique, je l'ai fait d'un pont à l'autre, du pont Louis-Philippe au pont de Cabessus. J'estime qu'on perd 22-23 secondes.
D'accord.
Chacun sera libre de juger si ça peut mériter d'améliorer la sécurité dans la boucle de Cahors.
Est-ce qu'à la ville de Cahors, vous comprenez un petit peu la colère de certains, pas de tout le monde, hein, mais de certaines personnes qui pensent que 30 km/h, il ne faut pas déconner, quoi.
Je comprends qu'il y ait besoin d'une période d'adaptation Par définition, c'est une nouvelle mesure que nous prenons. Il est normal que certains aient besoin de s'adapter, mais même si je lis, comme vous, ce qui peut se dire sur les réseaux sociaux, les retours que nous avons concrètement dans la rue sont plutôt positifs et sont les gens pour la sécurité sont favorables à cette mesure.
Comment vous allez faire pour faire respecter ça ? Parce que c'est bien 30 km/h, mais finalement il n'y a pas de brise vitesse, il y a pas, on va pouvoir le faire, ça, finalement on va pouvoir rouler plus, il n'y a pas de radar non plus.
L'idée bien sûr c'est de commencer par la pédagogie, mais ensuite nous pourrons adapter, contrôler la vitesse, il y a des radars pédagogiques qui existent, la police municipale dispose aussi de moyens de contrôle qui pourront être mis en place pour vérifier l'application de cette nouvelle réglementation.
Donc quand quelqu'un dit sur les réseaux sociaux encore une façon de s'en mettre plein les poches puisque les amendes vont tomber à tous les coins de rue, vous répondez ?
C'est absolument pas l'objectif. La pédagogie est le maître mot et ce sera notre première mesure, c'est déjà notre première mesure.
Pendant combien de temps la pédagogie ?
Pendant le temps qu'il faudra, c'est important que tous les Cadurciens et les gens qui viennent dans la ville de Cahors puissent se saisir de cette disposition.
On lit aussi des phrases du style « Déjà que je n'y mettais plus les pieds, je ne vais pas y revenir d'aussitôt. Entre le stationnement et le fait que dans les zones on a tout ce qu'il faut, je plains très sincèrement les commerçants du centre-ville. » Abel Rachid, est-ce que les commerçants du centre-ville sont en danger ? Alors, comment ils le perçoivent d'ailleurs, eux ?
Plusieurs choses. La mesure est entrée aujourd'hui en application, donc il faudra qu'on débriefe. Et évidemment, le plan vélo et circulation apaisée permet cette concertation. Il a été monté après un an de concertation, plus de 1000 personnes consultées. Il a vocation à être remis sur la table tous les ans, donc les commerçants, comme tous les autres cadurciens, seront interrogés sur la mise en place de ce plan vélo, de la limitation des 30 km/h et des évolutions que nous pourrons y donner dès l'an prochain.
Le but est que les gens quittent le centre-ville, en fait, non ?
Non, absolument pas. Au contraire, la vitesse permettra de mieux circuler pour tout le monde. Il faut savoir que déjà aujourd'hui, les pratiquants de la marche sont très importants dans la ville et certaines statistiques nationales disent aussi qu'un abaissement de la vitesse pourrait être plus favorable justement aux commerçants.
En réponse à cette phrase, justement, quelqu'un a déclaré « C'est surtout les voitures qu'ils ne veulent plus voir en ville, donc plus personne dans les magasins du centre-ville. » Est-ce que vous souhaitez à la ville ne plus vouloir de voitures en centre-ville ?
Non, il n'y a pas que ça. L'objectif de la municipalité est effectivement de permettre cette cohabitation homogène entre tous les usages. La gratuité du bus, par exemple, est une autre mesure qui vient en complément de ce qui s'est déjà fait et donc ce qui est en train d'application. Il faut rappeler que le centre ancien, le centre sauvegardé, est en zone partagée, ça depuis de nombreuses années. Ça signifie que la vitesse doit y être respectée à 20 km/h. Donc aujourd'hui, quand on applique cette limitation à 30 km/h, on donne une cohérence sur la partie gauche du boulevard, entre les zones 30 qui existaient déjà au niveau des allées Fénelon ou au niveau de la gare, et les zones qui n'y étaient pas. Mais une partie de la boucle était déjà en vitesse limitée. Nous venons donner plus de cohérence à ces mesures.
Parmi les phrases, il y en a une qui est quand même intéressante. En plus, nos véhicules et leurs rapports de boîte ne sont pas étudiés pour rouler en écho à cette vitesse-là. Du coup, on va tous polluer. Abel Rachid, est-ce que c'est vraiment une mesure qui va soulager, on va dire, la pollution de l'air ?
Ce qui est évident, c'est que l'accélération, quand elle est importante, génère une pollution très importante. Donc les études nous disent que plus on va accélérer souvent et fort dans une ville, plus on va polluer. La pollution va pouvoir évoluer dans la ville, mais l'objectif principal, ce que nous mettons en avant, c'est d'abord la sécurité, puisque les accélérations sont dures à anticiper, calculer, et ce sont plus ces éléments-là d'accélération qui comptent que la vitesse dans la pollution en centre-ville.
Alors autre chose auquel il faut répondre, ça va être le bourda pour tourner. Très peu de cyclistes lèvent le bras pour tourner sur les ronds-points. Les caisses de l'État vont se renflouer avec les radars, on en a parlé. Les écologistes vont avoir le sourire, c'est du marketing politique.
Non.
Est-ce que vous réfutez ce terme de marketing politique ?
Absolument, absolument. Nos mesures s'appliquent aussi aux cyclistes. Il est important que tout le monde partage l'espace. Et pour que ça se passe bien, la pédagogie doit se faire autant envers les cyclistes, les automobilistes qu'envers les piétons.
Alors comment vous allez la faire cette pédagogie ? Parce que vous en parlez depuis le début, mais
oui.
Finalement, concrètement, ça va se traduire comment ?
De la communication, de la rencontre avec la population, évidemment de la pédagogie envers les plus jeunes, parce que la réussite de cette mesure passera par le message envoyé aux plus jeunes d'entre nous. Donc, dans notre plan, il y a évidemment l'idée de se rendre dans les établissements scolaires, de faire des ateliers directement dans la ville, pour que toutes les générations soient sensibilisées à la problématique.
Alors, il y a une autre réflexion que j'ai trouvée intéressante aussi, parce qu'il y en avait quand même, mine de rien, sur les réseaux sociaux. Une personne qui dit « Pendant ce temps-là, beaucoup prennent la rue Jean Racine pour un circuit auto et roulent comme des dingues, et c'est sans parler des rodéos quotidiens et du drive de la drogue derrière le garage social. » Un autre qui répond « Circuit auto, avenue du Maquis aussi, je dois m'y garer très souvent, et à chaque fois, c'est le stress de sortir mon petit de la voiture, toujours peur d'être accroché par des fous du volant. On a eu deux voitures épaves dans cette rue et un nombre incalculable de rétroviseurs à changer. Monsieur le maire a constaté, mais tant qu'il n'y a pas de mort, tout le monde s'en fout. »
Non,
c'est violent, hein, mais c'est un peu ce que les gens peuvent ressentir aussi. On ralentit d'un côté, puis de l'autre, vous avez des avenues où effectivement certains s'en donnent à cœur joie.
Les gens qui ont écrit ça, je doute qu'ils soient contre l'abaissement de la vitesse. Simplement, effectivement, ils demandent à ce que ce soit étendu. C'est quelque chose qui pourra être mis sur la table à l'avenir. La question qui nous importe en premier lieu, c'est la réduction de la vitesse en centre-ville. Évidemment, on est ouvert à la discussion pour d'autres aménagements futurs. Et monsieur le maire le fait depuis de nombreuses années avec les réunions de quartier.
D'ailleurs, j'avais même vu une question, est-ce que monsieur le maire roule à vélo ?
Oui, absolument.
Donc voilà.
Monsieur le maire roule à vélo très régulièrement.
Donc il peut constater effectivement les difficultés qu'il peut y avoir pour un vélo aussi bien que pour les automobilistes, alors parce qu'il est aussi, automobiliste.
Oui, mais comme tous les cyclistes de la ville, il se rend compte aussi de tous les avantages que procure la circulation à vélo dans une ville qui a l'âge de Cahors.
Tout à l'heure, vous disiez à Belrachi qu'il y aura une concertation de nouveau avec les commerçants pour faire le bilan, c'est ça ? Et si jamais le bilan, c'est pas bon, et si jamais on vous dit non, j'ai moins de clients ou autre, qu'est-ce qui pourrait se passer au final ? Est-ce que pour l'instant, c'est.
Avec tous les citoyens. Donc, effectivement, la question qui se posera, c'est quelle zone a été mise à 30 ? Qu'est-ce qui peut être amélioré ? Et comme je vous dis, on a considéré que l'emplacement que nous avons choisi était un emplacement de centre-ville exclusif et modéré. On peut nous en demander plus, on peut nous en demander moins. On verra effectivement avec toute la population dont les commerçants font partie.
Donc,
les habitants, les usagers seront bien évidemment tout autant concertés.
Est-ce que déjà à la base on peut rouler à plus de 50 à l'heure dans le centre-ville de Cahors ? Vu le nombre de petites rues ? Et vu le nombre de feux rouges à l'avenue Gambetta, alors peut-être la nuit ?
C'est une bonne question. Il existe des endroits où on peut rouler à 50 km/h dans Cahors, mais effectivement seulement à certaines heures, seulement par petits bouts. La raison veut qu'on roule en dessous de 50 km/h depuis longtemps dans la rue Wilson, la rue Anatole France, un certain nombre de rues que nous avons mis à 30 km/h aujourd'hui. À toute heure, sur le boulevard Gambetta, de même, il est quasiment impossible de rouler à plus de 30 km/h en journée. Donc effectivement, cette mesure gêne certains utilisateurs qui pourraient devoir baisser alors qu'ils n'en voient pas l'utilité, leur vitesse, de nuit sur les quais par exemple. Mais c'est justement de nuit sur les quais que la visibilité du piéton sera améliorée par l'abaissement de la vitesse et qu'éventuellement, un accident pourrait être évité.
Comment ça va se passer, les rencontres que vous allez faire avec le public ? Vous allez aller dans la rue ? Vous allez mettre un stand
Alors, on a fait plusieurs choses. On a, dans un contexte Covid, réuni des gens en mairie, réuni la population à la Bourse du Travail sur des temps ouverts à tous, fait des ateliers sur les allées Fénelon, et quand le second confinement est arrivé, on a concerté par Internet et on a fait des questionnaires, encore une fois, ouverts aux habitants sur Internet. Donc on a déjà un panel de méthodes qui ont été utilisées qui est assez important et on souhaite continuer sur cette voie.
Certaines villes, en tout cas, ont vu leur fréquentation de cyclistes augmenter, en fait, hein, beaucoup plus de vélos. Est-ce que vous avez senti si c'était le cas à Cahors ?
Alors, notre ressenti va dans ce sens, mais le plan vélo que nous avons adopté consiste à comptabiliser la pratique du vélo. Donc, nous avons désormais un point de départ et je pourrai vous répondre précisément dans les prochains mois, les prochaines années, c'est sur cette question.
Est-ce que les aides à l'achat de vélos sont encore valables ?
Absolument, tout à fait. Quand on est habitant de Cahors et du Grand Cahors, on peut bénéficier à la fois d'une aide départementale et d'une aide communautaire, plus, je rajoute, une aide municipale à l'achat d'équipements de sécurité.
Abel Rachi, on rappelle, hein, 30 km/h, c'est quoi la zone alors au final ? Parce qu'on comprend bien, donc c'est pas dans tout Cahors.
Absolument.
Heureusement, il y a des zones qui ne méritent pas les 30 à l'heure, ça va de où à où ?
Au sud, on commence au pont Louis-Philippe.
Ouais.
À l'est, on commence au pont de Cabessu. Au nord, à l'auditorium. Et à l'ouest, devant l'espace culturel.
tout simplement. Voilà. C'est-à-dire qu'au-dessus, bah, c'est les limitations qui sont...
Exactement, voilà. Tout à fait.
Les panneaux qui sont marqués 50 à l'heure vont être enlevés.
Absolument, tout à fait, ils sont en train d'être enlevés. Il y a de la communication qui a été faite à la fois sur les bus, sur ces entrées de ville de façon assez importante, dans le journal municipal, dans la presse. Et la communication classique, la signalétique classique suit dans la rue.
Les prochains contrôles, c'est pour quand?
On verra, on adaptera aux besoins en fonction de comment ça se passe.
Voilà, il est important que vous puissiez venir au nom de la municipalité pour répondre, effectivement, parce que c'est une mesure que je crois que Cahors n'a jamais connue de 30 km/h en ville, hein, forcément. Donc, à part peut-être dans certaines petites zones, mais dans un centre-ville comme ça, pour une circulation apaisée, est-ce que le but, c'est quand même d'encourager les gens de venir en vélo?
De marcher, pratiquer effectivement tout un tas de modes de transport apaisés. Le vélo n'est pas au cœur du dispositif ou le seul élément du dispositif. La marche à pied est très importante et on souhaite la favoriser, le vélo et la marche en pied, et dans évidemment aussi la santé, la ponctualité, tout un tas de nombre d'éléments qui sont satisfaisants.
Donc c'est la sécurité en priorité.
Mais la sécurité est l'élément numéro un pour nous.
Merci beaucoup Abel Rachid d'avoir répondu sans tabou aux questions que les gens pouvaient se poser, et que je tiens à rappeler que tous ces commentaires, je les ai trouvés sur les réseaux sociaux qui commentent les articles de la presse qui en parlait. Merci beaucoup d'être venu nous en parler.
Merci à vous.
Et puis on rappelle aussi qu'il y avait des commentaires qui étaient quand même plutôt positifs, mais c'est cela, il n'y avait pas besoin de les convaincre, d'où votre venue. Et dans quelques instants, on part en voyage, un voyage en solo grâce à Jean Mayer et ce spectacle qui va se dérouler ce samedi.
CFM Cahors, le mag.
Voyage en solo, un spectacle poético-musical qui vous est proposé par la compagnie La Bête à Cornes et que vous pourrez voir ce samedi à 20h30 à l'auditorium de l'école de musique de Cajar. Le metteur en scène est avec nous, Jean Mayer. Bonjour Jean.
Bonjour.
Alors, spectacle poético-musical. Alors, j'en ai entendu des descriptions de spectacle. Hein, on leur donne toujours un petit nom. Mais comment on traduit quand on parle d'un spectacle poético-musical?
C'est un spectacle où on se balade entre le théâtre, la musique, la poésie. On peut croiser Aragon, Ferré, mais aussi De Vos, Ferrat, Nougaro, Jimi Hendrix, Michel Legrand. Voilà, hein, c'est un peu ça, Django Reinhardt. Donc c'est un spectacle, pour rentrer un peu plus dans les détails, c'est l'histoire d'une personne, hein, d'un homme qui voyage mais sans jamais se déplacer. Il ne voyage que sur la littérature, et grâce à la littérature et à la poésie, et il voyage grâce aussi au solo de guitare. Depuis qu'il est tout jeune, c'est un fan de solo de guitare. Et donc dans ce spectacle, il va y avoir de la poésie, du théâtre, donc tout un récit, il y a une histoire, hein, pourquoi cet homme débarque sur scène, et puis il y a un comédien sur scène avec une guitare électrique qui fait des solos magnifiques sur des textes magnifiques.
Est-ce que, alors ça c'est une question que je pose très souvent aux artistes qui nous parlent de leur spectacle, parce qu'on sait très bien que généralement les artistes et les spectacles, enfin créent leur spectacle suite à des expériences personnelles. Est-ce que cet homme qui voyage avec des solos de guitare serait, ne s'appellerait-il pas Jean?
Oh, Alors, il y a un peu, forcément, c'est comme je dis, moi, je dirige aussi l'école de théâtre de Cajarc, et quand j'explique un peu aux gens qui viennent en cours, et ils me disent, mais cette personne-là, je la vois pas, je la sens pas, mais je dis, cherche au fond de toi-même et tu vas la trouver. Enfin, on n'invente rien, souvent. Et c'est vrai que ce gars qui se balade et qui aime beaucoup la littérature, mais qui aime aussi beaucoup les sauts de guitare, il y a certainement du Jean Mayer dedans. Oui, forcément.
Un fan d'Aragon, Jean ?
Oui, d'Aragon, de Ferré, de Baudelaire, de voilà, je suis fan de tous ces gens qui me permettent de m'évader.
Et en même temps, Jimi Hendrix et Pink Floyd, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un gros bond entre les deux, ces deux univers.
Oui, mais les deux univers sont tellement fascinants, puis on berce ma jeunesse, mais me berce encore toujours, et j'écoute beaucoup de musique, j'arrive même à écouter de la musique en lisant. Et en fin de compte, c'est un peu ce que je raconte dans ce spectacle, mais bien sûr, il y a toute une partie théâtrale. Hein, pourquoi, hein, comme je disais tout à l'heure, il y a une raison pour que ce gars se retrouve sur scène là, avec deux grosses valises, et puis voilà.
Qu'est-ce qu'il y a dans ces deux grosses valises ?
Son aventure.
Qu'est-ce qu'il y a dans ces deux grosses valises, Jean Mayer ?
Alors, il y a une valise qui est remplie de bouquins, puis il y a une valise qui est remplie de trucs. Alors, ce gars-là, il dit souvent trucs, il ne se souvient plus des noms, tu vois. Alors, il dit trucs, et dans cette valise, il y a les trucs de sa vie. Donc, ces trucs vont nous rappeler Juliette Gréco, vont nous rappeler Michel Legrand. Enfin, voilà, c'est des apparitions d'objets, comme ça, qui vont nous permettre de voyager.
Comment on fait quand on veut faire un spectacle comme ça pour qu'il y ait une cohérence entre chaque changement de chanson ou de morceau de littérature, entre parenthèses ?
Ouais. En fin de compte, il y a un récit. Hein. Ce gars, il se retrouve devant chez lui et la première chose qu'il dit au spectateur, c'est que Alice, son épouse, n'est pas de très bonne humeur ce soir. Et tout au long de la pièce, en fin de compte, il va parler du voyage, de la relation amoureuse, et à la fin du spectacle, on va savoir pourquoi il se trouve là et pourquoi son épouse n'est pas de bonne humeur ce soir. Voilà, c'est ça. Donc j'ai créé une histoire, et dans cette histoire, il y a plein de poèmes et de textes qui parlent du voyage.
Accompagné avec un guitariste, Gérard Dubois ?
Oui, tout à fait, qui est guitariste et qui est aussi comédien, avec qui j'avais monté un spectacle il y a 2 ans, qui est un guitariste qui joue dans deux groupes, hein, dans le Lot, un groupe qui s'appelle Band of Lot et l'autre groupe qui s'appelle Chouglipec. C'est un très bon guitariste et je prends vraiment du plaisir à être avec lui sur scène parce qu'on a une complicité depuis plusieurs années et je me régale vraiment et ça me tarde vraiment samedi de rencontrer le public, mais ça me tarde aussi de jouer avec Gérard sur scène, voilà.
Jean Mayer, des clins d'œil à Gréco, Michel Legrand, Ferrat, Nougaro, Belmondo aussi, ouais. Ça va être peut-être un sens un peu plus particulier du coup quand on va parler de Belmondo.
Oui, mais tu remarqueras que tous les gens à qui je rends hommage sont des gens qui sont partis il n'y a pas très longtemps. Hein, c'est des gens que j'aime, c'est pas parce qu'ils sont partis depuis il n'y a pas longtemps que j'en parle, mais c'est parce que c'est des gens que j'aime. Et Belmondo, forcément, je parle de Gabin aussi, c'est des gens qui quand je les voyais sur les écrans de cinéma, et entre autres, je parle de Belmondo et de Gabin en parlant d'un singe en hiver. Hein, et donc, c'est... Voilà, tout cet univers a bercé une grande partie de ma vie et continue encore à me faire du bien quand je les vois. Donc c'est pour ça que je leur rends hommage.
La compagnie de la Bête à cornes, Jean Mayer, c'est aussi votre premier festival, les 3 jours du Bordu, que vous avez fait cet été. Comment ça s'est passé ?
C'est ça, ça s'est très très bien passé. On a eu du monde. Et tu vois, ce matin, j'étais en rendez-vous avec des financeurs pour pouvoir mettre en place la deuxième édition parce que, voilà, nous, on souhaite continuer. Ça a plu au public, cette proximité, ce petit festival. Et on compte rester petit, c'est-à-dire un festival à taille humaine où les gamins peuvent courir, où les gens peuvent s'asseoir, boire un coup, puis en même temps, écouter de la musique. Voilà, on veut garder cette ambiance-là, donc on espère qu'on va pouvoir faire la deuxième émission au début juillet 2022.
Et ben, ça sera avec plaisir qu'on aura l'occasion de venir reparler. Bien, avec plaisir. Donc, en tout cas, dans un premier temps, c'est ce voyage en solo que vous présentez avec Gérard Dubois, qui se situe donc à l'auditorium École de musique de Cajarc. C'est ce samedi 20 novembre à 20h30. Bon, j'imagine, on connaît maintenant, il faut le pass sanitaire, j'imagine, obligatoire.
Mais voilà, parce que... c'est ça, le le pass sanitaire, bien sûr. Et je voulais préciser que c'est un événement aussi important parce que l'école de musique est une école de musique toute nouvelle qui a été construite dans un bâtiment réhabilité, hein, qui est en face de la gare de Cajarc. Et ça va être le premier spectacle qui va se produire dans l'auditorium.
D'accord.
Donc ça a beaucoup d'importance aussi pour le responsable de Cajarc et de l'école de musique de Cajarc, dont son directeur Eddy, qui nous accueille bien gentiment.
Et on espère pas la dernière fois.
J'espère aussi.
Merci beaucoup Jean Meyer et rendez-vous samedi 20 novembre pour ce spectacle Voyage en solo. Merci beaucoup.
Merci.
Merci d'avoir suivi ce mag.